Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Kenji Girac, hors de danger après sa blessure par balle. Le chanteur parle d'une erreur de manipulation. Une enquête est ouverte depuis hier soir pour tentative d'homicide volontaire. Des couvre-feux pour les mineurs en Guadeloupe et à Béziers. Ils sont en vigueur depuis hier soir face à la délinquance des adolescents.
Et à 7h40, ces maires donc en première ligne. Le gouvernement soutient-il ces initiatives de couvre-feu, notamment à Béziers? Faut-il armer les polices municipales? Les réponses de la ministre en charge des collectivités, Dominique Faure, qui sera mon invité à 7h40.
Et puis le carton des jeux d'argent. Ils ont battu tous les records l'année dernière en France et on va vous expliquer pourquoi.
Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Enquête ouverte depuis hier soir.
Oui, pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi sur l'aire de Jean du Voyage de Biscarros dans les Landes. Là où le chanteur donc Kenji Girac a été blessé par balle, touché au thorax, avant d'être transporté à l'hôpital de Bordeaux. Il a été opéré dans la soirée, hors de danger ce matin. Il évoque lui-même la thèse d'un accident, une erreur de manipulation. Alors les circonstances sont encore floues. Enquête ouverte donc depuis hier soir et c'est l'incompréhension totale à Biscarros dans les Landes, comme nous le raconte Romain Houk pour RMC.
Nombreux sont celles et ceux qui ont déjà croisé le chanteur dans les rues de Biscarros. Et pour cause, ce n'est pas la première fois que Kenji et sa famille viennent s'installer sur cette aire d'accueil. Fred habite la commune, il parle d'un homme très apprécié des habitants.
Kenji, ça fait une dizaine de jours qu'on sait qu'il est là. Il fait ses courses normalement comme tout le monde, va au bar. Bon, personnalité Kenji, très très sympa, très amical. Il n'y a aucun souci, voilà.
C'est donc avec émotion que beaucoup ont appris la nouvelle, à commencer par Hélène Larrez et la mère de Biscarros.
Forcément, ça a créé de l'émotion, a fortiori quelqu'un qui est aussi populaire. Je lui souhaite un prompt rétablissement comme tous ses fans dont je fais partie.
Un émoi qui a bien sûr saisi également toute la communauté des gens du voyage. Nino Baliardo est le cofondateur des Gypsy Kings, mais il est surtout un ami de la famille de Kenji Girac.
C'est une star des Gitans et on est très 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 malheureux pour ce qui est arrivé. Beaucoup de gens prient des églises pour lui.
Kenji Girac a dû subir une opération hier en fin d'après-midi. D'après une source proche du dossier, il est sorti du bloc opératoire dans la soirée.
Et nous serons justement en direct depuis l'hôpital de Bordeaux, juste après le journal, avec notre correspondant sur place, également avec un armurier qui est notre témoin du jour. On essaiera de comprendre comment cet accident, si c'est un accident comme le dit Kenji Girac, a pu se produire.
Un couvre-feu pour les mineurs est entré en vigueur depuis hier soir à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe de 20h jusqu'à 5h du matin. Ça va durer au moins un mois face à l'augmentation des faits de délinquance dont quasiment la moitié sont commis par les 15-17 ans. Voilà ce qu'explique le préfet sur place. Couvre-feu aussi en place à Béziers pour les mineurs de moins de 13 ans à Béziers qui n'ont plus le droit donc d'être dans la rue après 23h. C'est un arrêté du maire Robert Ménard face à la progression, dit-il, de la violence. Jean-Wilfried Forquès pour RMC a passé la nuit avec une patrouille de la police municipale.
Direction un quartier difficile, Benjamin est au volant, Fabrice Cantel, le directeur de la police municipale, l'accompagne.
Là on est sur un secteur où il y a des mineurs de moins de 13 ans et qui servent régulièrement pour le trafic de drogue.
Mais les rues sont désertes.
Ben ce soir, c'est pas la fin de semaine, c'est pas vendredi, donc il y a peu de jeunes dans les rues, beaucoup moins que d'habitude.
Le maire de Béziers était également sur le terrain cette nuit. En 2014, il avait instauré un couvre-feu similaire, invalidé par le Conseil d'État 10 ans plus tard. Selon Robert Ménard, le contexte a changé.
Ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Ça touche les garçons, mais ça touche aussi les filles. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus l'accepter.
Et les Biterrois, rencontrés dans la nuit, apprécient l'initiative de l'élu.
C'est parfait, tant mieux, il était temps. Décision qui peut, j'espère, permettre de responsabiliser les parents.
Il va falloir qu'il y ait une surveillance qui soit certainement accrue de la part des forces de l'ordre, mais pour moi, oui, ça, c'est une bonne chose.
Un couvre-feu contesté par la Ligue des droits de l'homme qui envisage de déposer un recours.
La galère, ça continue ce matin à l'ouest de Paris et ce n'est que le début. L'autoroute A13, donc dans l'ouest parisien, ne rouvrira pas avant le 1er mai. On l'a appris hier soir, la faute à des fissures sur la chaussée provoquées par un affaissement de terrain. La galère annoncée jeudi dans les avions, dans les aéroports, avec une grève des contrôleurs aériens qui annonce déjà une mobilisation record, malgré la trêve qui avait été promise jusqu'aux Jeux Olympiques. Alors, ils se mobilisent, les contrôleurs aériens, après l'échec des négociations du projet de réforme du service de la navigation aérienne. Et donc, tous les syndicats, absolument tous, appellent à la grève, Caroline Philippe.
Ce qui laisse craindre une forte mobilisation et des centaines de vols retardés ou annulés, sans savoir précisément quelle sera l'ampleur des perturbations, car les contrôleurs aériens ont jusqu'à ce midi pour se déclarer grévistes. Depuis 15 mois, les négociations patinent entre d'un côté la Direction Générale de l'Aviation Civile qui veut réformer la manière dont fonctionnent les services de navigation aérienne pour notamment faire face à la hausse du trafic aérien, et de l'autre, les syndicats qui ne sont pas contre mais qui réclament en échange une hausse de leur salaire, des avantages en termes de primes, de congés ou encore de grilles de rémunération. En décembre dernier, les syndicats majoritaires des contrôleurs aériens s'étaient engagés à ne plus faire grève jusqu'à la fin des Jeux Olympiques sur les questions d'inflation, en contrepartie d'une augmentation du montant de leurs primes.
7h05 sur RMC, Géraldine Nemory nous le disait, hein, c'est en ce moment même qu'il fait le plus froid.
Oui, pour vous donner une idée, on est fin avril, mais on a des températures dignes d'une fin février dans les trois quarts du pays, provoquant donc l'inquiétude des arboriculteurs, des viticulteurs également pour leur culture qui n'y comprennent plus grand-chose. Martin Caloré pour RMC, vous nous expliquez qu'il existe des solutions pour lutter contre le gel des récoltes, mais alors ça coûte cher et il n'y a pas beaucoup d'aide.
Oui, il y a la méthode des bougies pour réchauffer l'air. Il faut en allumer des centaines. Ça coûte 2 à 3 000 euros par hectare. Opération à renouveler à chaque nuit de gel. Les professionnels préfèrent donc investir sur le plus long terme avec la méthode de l'arrosage, par exemple. On projette de fines gouttelettes qui forment de petits cocons de glace sur les bourgeons et vont paradoxalement les protéger du gel. Le problème, c'est qu'il faut des autorisations pour pomper qui peuvent prendre des années. Autre méthode, les tours à vent, des sortes d'éoliennes qui vont capturer l'air chaud en hauteur pour le redistribuer quelques mètres plus bas, coût autour de 40 000 euros pour 4 hectares. Des investissements pas ou peu subventionnés, mais devenus indispensables, car le système assurantiel, lui, ne fonctionne plus, explique Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits.
Quand vous avez une assurance, il se base sur la moyenne des 3 dernières années de récolte. Et le problème, c'est que comme on a des coûts durs, vous avez des moyennes de plus en plus basses. Et donc, si vous arrivez un coup dur, vous êtes indemnisé extrêmement peu.
Résultat, en 2023, seuls 12% des arboriculteurs avaient souscrit une assurance récolte.
Vous connaissez l'adage, hein, jouer avec excès comporte des risques. Oui, n'empêche que les jeux d'argent ont battu des records l'année dernière en France. Ils ont généré, écoutez bien, plus de 13 milliards d'euros. Ça n'a jamais été aussi élevé. En hausse de 3,5% sur un an d'après l'Autorité nationale des jeux, et même 6% rien que pour les paris sportifs. Avec en toile de fond Lucas Laubert, la quête de frissons et l'appât du gain en ces temps d'inflation.
Oui, une recherche d'émotion que Manolo, parieur régulier, adore.
C'est enivrant, ouais. La sensation de gagner, etc. Et de voir des personnes sur qui on parie gagner aussi, c'est le frisson. Et en plus de ça, on gagne de l'argent, donc le bonheur, il est multiplié par 10 finalement.
Alors gagner, ce n'est pas pour tout le monde. Mba, il assure, la plupart du temps, on perd de l'argent.
J'étais un perdant en fait. Je jouais et je gagnais pas, du coup je me suis dit ça n'a pas de sens, je vais arrêter.
Il est resté raisonnable, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Je connais des potes, c'est comme une drogue pour eux, ils sont devenus accros.
Un risque d'addiction que prend au sérieux l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. Elle régule les jeux d'argent en France. Avec l'Euro de football, les Jeux Olympiques, 2024 risque d'être une année record sur les paris sportifs. Guillaume Laborderie, directeur marché innovation à l'ANJ.
Nous on appelle à une particulière vigilance sur les pratiques des joueurs. Le nombre de points de contact, de notifications push ou d'email est limité en nombre par jour, par semaine. Donc les spots TV aussi sont aussi encadrés à ce niveau-là.
L'année dernière, 3 600 000 personnes ont joué de l'argent en ligne en France.
Tiens, et puis on a la première action de la Chine. Première fois que les Chinois se défendent des accusations de dopage aux Jeux de Tokyo. Vous savez qu'il y a eu cette vaste enquête de la presse allemande et américaine qui évoque 23 nageurs chinois testés positifs à ces JO de Tokyo. Eh bien, c'est faux. Accusation fallacieuse. C'est ce que dit le gouvernement chinois. C'est pas du dopage, mais une contamination alimentaire à l'insu des nageurs. Donc pas du dopage, mais de l'alimentation.
Bon, j'imagine qu'ils seront particulièrement surveillés pour Paris 2024. Oui. 7h08, merci, c'était le journal de Quentin Vinet.